Point fixe, ma guerre d'Algérie.
Daniel Simon, dialogue avec Marie-Hélène Dupuy. Ce que l'on appelle aujourd'hui en France « guerre d'Algérie », la reconnaissance de ce terme ne date que de 1999, mais que l'on a longtemps simplement appelé « les événements d'Algérie », pour en nier le caractère guerrier, et que les Algériens appellent « guerre de libération nationale », s'est déroulé de 1954 à 1962 en Algérie, alors colonie française depuis 1830. Cette guerre s'est achevée le 3 juillet 1962 avec la reconnaissance de l'indépendance du territoire. De 1954 à 1962, un nombre croissant d'appelés du contingent fut envoyé en Algérie pour des opérations dites de maintien de l'ordre ou de pacification. Pendant cette période, ce sont 1 343 000 appelés ou rappelés qui participeront à ces opérations et viendront s'ajouter à 407 000 militaires d'actifs. Il faut noter que parmi ces appelés, 12 000 ont été déclarés réfractaires, dont 10 831 insoumis, ce sont des appelés qui ne se sont pas présentés lors de leur appel, 886 déserteurs et 420 objecteurs de conscience. Enfin, la durée du service, qui était de 18 mois jusqu'en 1957, est ensuite passée à 30 mois. Parmi ces nombreux appelés, Daniel Simon, né en 1941 et qui fut appelé sous les drapeaux, comme on disait à l'époque, le 15 mai 1961, à l'âge de 20 ans. Daniel, qui a accepté de raconter sa guerre et avec qui je vais dialoguer tout au long de ses chroniques.
Mais bonjour Daniel, je te retrouve pour cette troisième chronique donc autour de la guerre d'Algérie, donc de cette émission qu'on a appelée Point fixe. Il faudra quand même que tu expliques pourquoi Point fixe, mais je te laisserai expliquer ça. Dans les deux premières séquences, tu nous as parlé donc de ta mobilisation, de tes classes à Compiègne et puis de ton départ donc en Algérie. Tu avais réussi à être incorporé en tant qu'élève infirmier, tu as fait donc 3 mois à l'aéroport de Maison-Blanche, à Alger, à l'école d'infirmière, on va dire. Et donc, mois de décembre 1961, ben, tu as envoyé sur le terrain, ce qu'on appelle un détachement en terrain opérationnel, DTO. Qui va...
Voilà, DTO, oui.
Voilà, et tu vas donc nous expliquer aujourd'hui ben, comment s'est passée donc, ta véritable entrée réelle sur le terrain militaire.
Voilà, oui, bon, ben, bonjour à tous. Voilà, on va commencer cette explication du départ vers Djelfa. Djelfa, donc, c'était une petite ville qui existe toujours, qui et avait à côté un terrain d'aviation qui s'appelait le DTO 547, c'est-à-dire le détachement en terrain opérationnel 547, qui était tenu par l'armée de l'air. Et donc, je suis allé en train, puisqu'il y a je pense toujours un train qui va d'Alger à Djelfa. Alors ce train va d'Alger à Djelfa en passant par, pour ceux qui ont une carte, en passant par Blida, qui est une grosse base aérienne. Et puis après Blida, ben, on monte dans l'Atlas à plus de 1000 mètres. Hein. Et donc on va traverser ce qu'on appelait les gorges de la Chifa. Les gorges de la Chifa, c'est un endroit où il y avait des singes, où il y avait des macaques qui ont été pratiquement tous été tués par les militaires français, parce qu'il y avait des officiers qui s'amusaient beaucoup, et le week-end, eh bien, ils allaient s'amuser à tirer sur les singes. Donc, je pense qu'il n'y a plus de macaques dans les gorges de la Chifa. Mais enfin, l'endroit s'appelle toujours quand même du même nom. Hein. C'est les gorges, le ruisseau des singes. Le ruisseau des singes, vous verrez sur la carte, dans les gorges de la Chifa. Et donc, une fois passé l'Atlas, on redescend sur un grand plateau. Et passé ce plateau, qui est assez long hein, quand même, hein, assez large, et on arrive donc à Djelfa, dans ce qu'on appelle les monts des Zulen Niles. Les Ulen Niles, je ne prononce pas très bien, c'était des nomades qui habitaient là-bas, je pense qu'il y en a toujours. Ils habitaient pas dans des maisons en dur, ils habitaient dans des grosses tentes marron, je me rappelle bien. Et donc ce peuple-là des Ulen Niles était nomade et faisait donc de l'élevage de moutons et l'élevage de chèvres.
On va en reparler, puisque je sais que tu as été en contact avec ces peuples après en tant qu'infirmier. Mais donc ce voyage, il a duré combien de temps d'ailleurs, ce voyage d'Alger à Djelfa?
Alors ce voyage d'Alger à Djelfa, il faut une bonne demi-journée. Moi j'ai tout seul à être nommé à Djelfa, donc voilà. Et d'ailleurs, j'ai repris le train souvent parce que quand j'emmenais des blessés à l'hôpital d'Alger en hélicoptère, je revenais en train et donc je reprenais le train pour redescendre à Djelfa.
Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton arrivée à Djelfa ?
Alors, mon arrivée à Djelfa, et plus précisément dans ce détachement qui se trouve à 4 ou 5 km sur la route de Boussa Hada, donc c'est. C'était un petit terrain d'aviation qui était encerclé, enfermé, hein, protégé, avec des sentinelles qui gardaient. Et donc, quand je suis rentré dans ce terrain-là, j'ai tout de suite vu des gens qui travaillaient à faire des fossés. Alors, c'était des fossés qui étaient creusés par des prisonniers félagas, hein, des félagas qui étaient là pour faire des fossés. Donc, on m'a dit où était l'infirmerie. Je suis rentré dans l'infirmerie, qui était une grande fiode. Et donc, dans cette fiode, je suis tombé sur les trois personnes avec qui je suis resté une vingtaine de mois, c'est-à-dire un infirmier, qui était un pied noir, un chauffeur, qui était pied noir aussi, et puis moi, évidemment, qui n'étais pas pied noir. Et puis le toubib, que j'ai vu après, qui était un Français qui était là-bas comme médecin. Donc le contact a été assez difficile parce que... Et donc, mais ils étaient pieds noirs et ils n'aimaient pas beaucoup les Français de métropole. Donc le contact n'était pas très bon, quoi. Ils sont restés entre eux, ils logeaient d'ailleurs dans la même chambre. Et puis on m'a donné une chambre à part. Et puis on m'a donné une arme. Alors là, j'ai demandé des explications et on m'a dit, de toute façon, c'est pas pour t'en servir, mais pour te défendre éventuellement si t'es attaqué, si le camp est attaqué, tu la mets sous le lit et puis elle reste là. C'est ce que j'ai fait. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à comprendre ce qu'il y avait comme médicaments, qui faisait quoi comme médicaments, parce qu'il y a beaucoup de médicaments que je connaissais pas. Donc le toubib m'a un peu expliqué. Et puis on m'a dit que j'allais faire aussi de l'assistance médicale gratuite. Alors il y avait deux types d'assistance médicale gratuite. Il y avait une assistance sur place. C'était seulement les femmes algériennes qui venaient avec des enfants. Ça, c'était une assistance médicale gratuite pour les enfants algériens. Ils venaient une fois par semaine se faire soigner au camp. Et puis il y avait, là c'était tous les jours, ou presque tous les jours, je ne me rappelle plus exactement, on partait en jeep avec le toubib, avec un chauffeur, et puis un officier qui était un officier de renseignement. Il n'a jamais fait de renseignement, celui-là, mais bon, il était payé pour ça. Il était chargé de se renseigner un peu sur les mouvements des félagas dans la région, donc soi-disant que...
D'accord, il vous accompagnait, et donc il était du coup au contact de la population,
oui.
Il était chargé de les faire parler un peu.
Oui, ouais. On partait à quatre, et donc on allait vers la route de Boussa Hada, et donc un peu de chaque côté, on allait dans les petits villages.
Alors, est-ce que c'était des villages ou c'était des camps de nomades ?
Alors, il y avait les nomades d'un côté, qui étaient donc les Ulenas qui étaient dans leur tente, et puis il y avait aussi des gens qui vivaient dans des maisons fixes, dans des petites maisons assez pauvres, hein, assez mal construites, mais c'était des bâtiments durs, des gens qui habitaient aussi là-dedans. Et donc, on est allé soigner ces gens-là. Bon, il s'est passé presque tout le temps sans problème, c'est parce que on nous prévenait lorsqu'il y avait un problème, et c'était les Algériens qui nous prévenaient, les Algériens des villages, qui étaient entre les deux, entre les Félagas et nous, et ils nous disaient ne restez pas, partez. Donc on savait qu'à ce moment-là, les Félagas ne devaient pas être très loin. Donc à ce moment-là, on revenait au camp. Et donc en temps normal, il y avait quand même de l'armée de terre qui était dans des petits pitons autour de Djelfa, entre Djelfa et Boussada. Là, ils étaient une dizaine de militaires de l'armée de terre qui étaient chargés de garder un peu la région.
Donc, tu nous as parlé de cette assistance médicale gratuite qui était donc soit sur place, sur les villages ou dans le camp même où des femmes avec des enfants pouvaient venir. Peut-être que tu nous parleras plus dans les séquences suivantes, peut-être un peu du contact avec ces populations, comment ça s'est passé, et puis également de tes autres missions, puisque je crois que tu as eu d'autres missions que celle-là, bien sûr, pendant tout le temps que tu as passé dans ce camp. Merci.